Nouveau rendez-vous mensuel sur Fréquence Mistral La Digne. Ça sera tous les deuxièmes jeudis du mois. Nous aurons le plaisir d'accueillir, et nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes là dans nos studios pour parler aujourd'hui des archives départementales, de ce que tout ce que cela peut comprendre.
En effet, donc je suis venu effectivement parler un petit peu des archives, du métier d'archiviste, puisque effectivement quand on dit archives départementales, c'est à la fois un lieu, un bâtiment, les archives, c'est aussi évidemment un contenu, et en l'occurrence plus de 10 km linéaires d'archives qui concernent des périodes les plus anciennes. On a presque 1000 ans d'archives jusqu'à des archives contemporaines qui comme on le constate nous-mêmes quand on reçoit de la documentation, des papiers d'administration, représentent presque la moitié des archives conservées dans nos services.
Et comment sont organisées ces archives ?
Alors, en fait, le principe donc, des archives, c'est d'abord évoquer la question d'abord des archives publiques. Car en réalité, la mission d'un service d'archives départementales, c'est de conserver, de gérer, éventuellement de restaurer et de communiquer les archives publiques. Alors, la question, c'est de quoi s'agit-il ? Alors en fait, on considère dans la catégorie des archives publiques toutes les archives qui sont produites ou reçues par une administration ou par un délégataire de service public. Alors ça va en fait des archives de la préfecture jusqu'aux archives de la piscine dans le cadre de sa délégation de service public pour la partie qui intéresse la délégation. C'est vrai aussi par exemple pour des fédérations sportives. Une fédération sportive qui est à la fois une association a aussi une délégation de service public et produit donc et reçoit des archives publiques. Et c'est ces archives-là que nous avons vocation à les gérer. Alors, il y a une deuxième chose. Après avoir vu ce que étaient les archives publiques, il faut savoir qu'est-ce qu'on conserve. Alors, en réalité, évidemment, on n'a pas la capacité de tout conserver. Pour donner un ordre d'idée, chaque année, nous recevons des archives publiques qui sont versées par les administrations. Ça a représenté en 2015 environ 240 mètres linéaires. Alors, on calcule en mètres linéaires, c'est simplement la largeur de la boîte. Les boîtes d'archives, en général, font 10 cm. Donc, vous calculez hein, donc 250 mètres, ça fait donc 2500 boîtes. Mais dans le même temps, en 2015, il a été détruit presque 1,2 km d'archives publiques en application de la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, les administrations ne gardent pas tout et ne nous donnent pas tout. Quand on a des archives, quand par exemple vous écrivez à l'administration ou quand l'administration vous écrit, elle a produit une archive qui est donc publique. Cette archive, vous allez la conserver. Pour vous, ce n'est pas du tout une archive publique, c'est une archive privée. Mais pour l'administration qui a produit, qui a le double en fait, si vous voulez, ce document-là, soit au bout de son utilité administrative, c'est-à-dire en fait, il est dans votre dossier par exemple, et ce document, une fois que votre dossier a un petit peu d'âge, peut-être que vous avez déménagé, vous êtes parti ailleurs, que vous avez, voilà, etc. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette archive ? Alors il y a deux solutions. La première, c'est d'éliminer. La seconde, c'est de la conserver. Voilà. Donc toute la question est là, et cette règle de la conservation ou de la destruction est régie évidemment par des textes, hein, on ne fait pas n'importe quoi, qui donne en fait ce qu'on appelle le sort final de l'archive. Autrement dit, quand on parle d'archive, on croit toujours que c'est document ancien et poussiéreux, alors qu'en réalité, et je le disais tout à l'heure, dans notre service, nous conservons essentiellement des archives contemporaines, donc qui sont postérieures à 1940, puisque ça représente quasiment un peu plus de 4 km d'archives. Voilà, donc vous imaginez donc cette masse. Il est donc normal qu'on ne conserve pas tout. Et quelquefois, quand même, parce que les archives peuvent présenter un intérêt historique, alors on décide à ce moment-là de trier. C'est-à-dire qu'en fait, on décide soit de conserver certaines années, soit de conserver certaines lettres. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, on conservait, par exemple, dans les dossiers nominatifs, les lettres B et T. Et toutes les autres étaient détruites, voilà, hein, à des fins historiques. Voilà. Il y a d'autres dossiers qu'on conserve, par exemple tout ce qui concerne la justice, évidemment, on ne détruit rien dans les dossiers d'instruction, par exemple, et les dossiers, tout simplement, hein, des personnes qui ont été jugées par la justice, quel que soit son niveau, ces dossiers-là sont évidemment conservés. Mais il n'empêche que beaucoup sont détruites.
Et la personne qui a égaré un document administratif, elle vient vers vous pour avoir un double ?
Alors, elle pourrait, effectivement. Nous avons quelquefois des personnes, vous savez, au moment de la retraite, se tournent vers nous parce qu'elles ont égaré leur fiche de paye et doivent faire la preuve de leurs années d'activité. Et donc, effectivement, quelquefois, elles viennent vers nous. Alors ça, c'est valable pour les gens d'administration. Ça l'est beaucoup moins pour les gens privés, puisque, comme je le disais tout à l'heure, une entreprise qui est qui produit des archives dites privées, évidemment, n'a pas vocation à être conservée aux archives départementales.
Et vous disiez que les archives étaient détruites, mais sont détruites par quelle façon ?
Alors, quand on dit détruit, c'est vraiment détruit. C'est-à-dire, en fait, soit on les incinère, soit elles sont hachées, mais il n'est pas question, évidemment, de les mettre en l'état dans un système de récupération, sinon, après les avoir, évidemment, bien broyées, car il est très important, effectivement, de bien les détruire pour pas qu'elles soient récupérées par quelqu'un. Il y a quelquefois des administrations ou des mairies qui ont tendance à vouloir rendre les archives aux gens qui sont concernés, par exemple, un dossier nominatif. Or, un dossier nominatif n'appartient pas, évidemment, à l'agent. Ça appartient à l'administration et donc, non, évidemment, ça n'a pas vocation. Alors, quelquefois, il faut que j'explique un peu que le dossier, en fait, non, on ne peut pas le remettre à l'agent quand il part à la retraite. En fait, on doit le conserver. Et si les règlements prévoient sa destruction, il doit être détruit.
Et pour ce qui concerne les archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, vous avez une équipe de combien de collaborateurs avec vous ?
Alors en fait, effectivement, pour gérer à la fois les archives qu'on conserve plus les archives publiques du département, nous sommes 22. Donc 22 agents, 2 de l'État, 20 agents de la fonction publique territoriale, donc qui dépendent du conseil départemental. Pour ma part et pour mon adjointe, nous sommes des fonctionnaires d'État qui sont mis à disposition du département pour diriger donc ce service.
Et comment avez-vous été recruté ?
Alors là, c'est une question intéressante. Alors en réalité, moi, j'ai un terrain un peu particulier parce que je suis un enseignant au départ qui a eu donc une carrière d'enseignant normal dans l'enseignement agricole et puis quelques charges de cours à l'université. Et puis, à un moment donné, donc, j'ai souhaité me réorienter. Donc j'ai fait passer le concours de conservateur puisque les directeurs sont des conservateurs. J'ai donc ensuite été sur une scolarité d'un an et demi à Paris à l'Institut national du patrimoine qui est en fait... Une scolarité, donc c'est une école d'application, qui est en fait moitié cours, moitié stage. Et à l'issue, donc, je suis devenu directeur des archives départementales d'abord de la Lozère, où je suis resté 2 ans. Et puis ensuite, donc, depuis 2010, je suis directeur des archives départementales des Alpes-de-Provence. J'ai été évidemment choisi par le conseil départemental. Donc comme tout agent de la fonction publique territoriale, j'ai passé un entretien avec des personnes devant moi qui m'ont posé des questions et qui m'ont choisi. Mais ça aurait pu ne pas se faire. Hein, donc c'était voilà. Donc c'est vraiment au choix de la collectivité.
Et pour exercer votre fonction, vous avez des aptitudes historiques ?
Alors,
quelque part.
Alors, en fait, évidemment, alors les archivistes, normalement, ont des formations maintenant. Hein. Il y a des formations à l'université, des masters, des licences d'archivistique, ce qui est d'ailleurs un phénomène tout à fait récent. Hein. Il y a évidemment l'École nationale des chartes qui forme les archivistes de haut niveau. Pour ma part, donc, j'ai fait effectivement des études d'histoire. Et dans mon concours, j'avais évidemment des options qui étaient plutôt... Donc effectivement, qui avaient une coloration historique et en l'occurrence un sujet sur les institutions françaises. Puisqu'en général, les archivistes sont moins des historiens que des archivistes. C'est-à-dire, en fait, ce sont plus des spécialistes de l'administration même si beaucoup, évidemment, ont fait des études d'histoire en parallèle ou en formation initiale avant une spécialisation d'archives. Mais le métier d'archiviste n'est pas un métier très compliqué. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base, qui est effectivement une base plutôt historique.
Avant de parler des archives proprement dites, ça fait combien de temps que vous êtes dans les Alpes-de-Haute-Provence ?
Alors, ça fait... Donc, j'étais recruté, donc... J'ai pris mon poste en fait le 1er juillet 2010, donc ça fait maintenant plus de 5 ans. J'ai commencé ma 6e année et j'en ai toujours avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à diriger ce service.
Alors donc vous avez dit, vous êtes là depuis 2010, les archives qui sont dans les Alpes-de-Haute-Provence comme en Lozère, sont régis de la même façon ?
Alors, c'est exactement pareil. On a exactement les mêmes principes. Tous les principes s'appliquent à tous les services d'archives départementales. Donc, il y a effectivement des règles, puisque c'est un vieux métier, en fait. Hein. Les archives, alors, je ne vais pas vous faire l'historique des archives départementales, mais ça remonte à 1796, quand même. Hein. C'est une création de la Révolution française, après la création des archives nationales en 1790. Et depuis, évidemment, ce métier... des règles se sont construites et donc on applique tout simplement ces règles qui datent, dont certaines datent du 19e, qui s'appliquent toujours. Alors évidemment, en prenant en compte les évolutions, en particulier les questions de tri, par exemple, qui ne se posaient pas auparavant, car ces questions de tri dépendent évidemment de la masse qui a été produite depuis 1940. Et puis maintenant, on est dans des archives électroniques, hein, puisqu'on a maintenant des administrations qui produisent directement des archives, car dans la définition des archives, ce qui compte, ce n'est pas le support, c'est la question du statut. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit archives, ça peut être du papier, ce qu'on imagine souvent pour les périodes contemporaines, du parchemin, pour les périodes aussi les plus anciennes, mais c'est aussi une disquette, un CD-ROM, et même donc des archives natives qui sont électroniques. Donc on a aujourd'hui dans nos problématiques à la fois à gérer du parchemin, du papier, et évidemment maintenant des archives électroniques.
Justement, vous parliez de parchemin, de papyrus, si vous voulez. Au fil de temps, ça a évolué tout ça. Vous, votre rôle, c'est de remettre aussi en état ou pas de ce genre de papier. Alors,
dans les missions des archives, nous avons la mission de conservation et la mission de communication. Alors, quand on pour conserver, nous devons évidemment conserver des documents dans les meilleures conditions possibles. Alors déjà, on a des conditions d'hygrométrie, de température qui sont contrôlées, mais par ailleurs, nous avons aussi l'obligation de communiquer ces documents et donc de les rendre communicables. Or, souvent, il arrive que des documents soient en très mauvais état tout simplement parce qu'ils ont été victimes d'une inondation, qu'ils ont été contaminés. Hein, c'est le cas le plus fréquent. En général, humidité, chaleur amènent une contamination par des champignons. Et donc, effectivement, tous les ans, il y a un budget assez important qui est consacré à la restauration de ces documents d'archives qui est faite à l'extérieur par des laboratoires spécialisés, mais aussi par quelqu'un du service, car nous avons la chance d'avoir un relieu restaurateur dans notre service qui peut nous faire des petites restaurations, des restaurations, j'allais dire, qualitatives, car les restaurations quantitatives, hein, quand on fait des grandes masses, c'est impossible à faire à notre échelle. Et donc, on les externalise donc à des ateliers qui sont vraiment spécialisés dans ces questions, hein, qui sont des références nationales. Mais c'est vrai que... Alors, une fois que ces documents ont été restaurés, c'est souvent d'ailleurs des archives notariales, eh bien, ces documents sont numérisés. Et à ce moment-là, on fait un peu ce que disent un peu mes agents en souriant. On crée une boîte de conserve. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un document qui est très beau et en très bon état, mais qu'on ne donne plus à consultation puisqu'on a fait la numérisation. Et dans ce cadre-là, on préfère communiquer avec les pièces numérisées, car évidemment, ça n'abîme pas le document.
Et quand il y a un problème d'humidité, il y a des trous, enfin un trou oui. Abstrait. Quoi, hein. Oui. Le lien qu'il y a entre avant et après dans un document, comment alors, vous pouvez le combler ?
Les restaurateurs font du comblage, mais ils bouchent un trou. Donc effectivement, ce qui a été détruit, malheureusement, ne peut plus être restauré. On ne recrée pas le document. En fait, la restauration, c'est vraiment renforcer, le rendre pérenne. Et donc effectivement, d'abord, il est décontaminé. Hein, c'est la première étape, puisque les ateliers n'ont pas envie de faire entrer des documents qui sont contaminés dans leurs ateliers, hein, pour les raisons qu'on comprend tout à fait. Et puis après cette décontamination, il y a tout un travail qui est assez compliqué, très technique, qui consiste à renforcer le document. Donc d'abord à le décontaminer, ensuite à le nettoyer, ensuite éventuellement à combler, car il s'agit de le rendre consultable. Et donc, pour qu'on puisse tourner les pages, il faut remplacer ce qui a été enlevé. Et donc, quand il y a des gros trous, on fait du comblage. Hein, donc vraiment, on met de la pâte à papier, hein, tout simplement. Et puis après, on le renforce avec du papier Japon. Car dans les principes de la restauration, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la nécessité de faire quelque chose qui est visible, irréversible, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est restauré pourrait être démonté, éventuellement, si besoin était, parce que un, on voudrait retrouver le document initial, et deux, parce que peut-être que dans 50 ans, les techniques permettront d'avoir des meilleurs résultats, car en réalité, le document qu'on a restauré a été souvent lui-même déjà restauré à une époque antérieure, et quelquefois, ça coûte plus cher. La restauration, en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est pas de réparer ce qui a été abîmé, c'est de réparer la restauration ancienne qui a été mal faite. Voilà. Donc, on imagine que nous-mêmes, que les progrès de la technique vont permettre des gains dans une cinquantaine ou une centaine d'années, peu importe. Et donc, ce qu'on fait est réversible et démontable. Donc, on utilise des cols à l'eau, hein, qu'on peut défaire facilement, etc.
Cette année, revenons aux archives, c'est le triste anniversaire du centenaire de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a un certain désir ici qui est des basses Alpes d'alors,
oui.
Qui a été un témoin quand même assez important, qui a pu relayer beaucoup d'informations. Vous avez pu retrouver tout ça dans vos archives?
Alors en fait, donc Désiré Sic, effectivement, c'est l'histoire en fait d'un dépôt d'archives en fait photographiques, puisque il a, grâce à ce centenaire, nous avons rentré en contact avec celui qui détient ces archives. Donc Désiré Sic était en fait un combattant effectivement de la guerre de 14-18, qui était un sous-officier puis officier pendant la guerre, qui a fini sa carrière comme chef de bataillon. Et ce Désiré Sic avait une particularité, c'est qu'il aimait beaucoup la photographie et donc il a réalisé des milliers de photographies. Au total, on a à peu près 5000, dont 1500 à 2000 concernent quasi exclusivement la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, pour nous, c'était très important parce que comme on avait un projet d'évoquer la guerre pendant 4 ans, on avait là une base très importante de photographies, ce qui a donné lieu donc effectivement aussi à la publication d'un ouvrage qui est en vente d'ailleurs aux archives départementales et qui reprend l'itinéraire de ce soldat qui était donc d'Entrevaux, hein, originaire d'Entrevaux, qui a été d'abord au Maroc. Au moment du déclenchement de la guerre, il est au Maroc. Il est rapatrié évidemment avec ses unités donc avec les brigades marocaines en fait sur le front occidental et il combat jusqu'en 17 avant de repartir au Maroc. Voilà. Donc c'était effectivement une histoire très singulière, très importante et surtout comme il était dans le génie, hein, il avait l'occasion d'aller un peu sur tous les théâtres d'opération. Il était assez peu exposé. Hein, les soldats du génie étaient assez peu exposés par rapport évidemment à ceux de l'infanterie. Et il a pu aller un peu partout et donc il a fait une sorte de reportage et il classait en fait hein, ses plaques de verre par thématique. Alors il y a l'aviation, les tranchées, les bombardements, etc. Et donc évidemment c'est une source absolument inépuisable puisque vous avez à peu près tous les aspects de la guerre qui sont évoqués.
Quelque part, c'est le premier reporter de guerre qui existait.
Oui, c'était un reporter de guerre. Alors, il y en a eu d'autres. Hein. La photographie s'était comme démocratisée. Lui avait une autorisation officielle de l'armée pour pouvoir faire des photographies, parce qu'il y avait quand même le problème de la sécurité, de la diffusion des informations. Donc il avait une autorisation officielle pour faire ses photographies. Et comme il avait le temps, la technique, l'appareil et les opportunités, en fait, hein, donc il a fait vraiment beaucoup de photographies. Pour le moment, c'est celui qui, dans les Belles Alpes, hein, parce qu'on a eu d'autres fonds photographiques qui sont rentrés depuis, a fait le plus de photographies et qui a surtout, à la différence d'autres combattants qui étaient que dans l'infanterie, lui a pu circuler dans toutes les armes. Et donc, vous avez des photos graphiques qui concernent l'artillerie, le génie, évidemment, l'infanterie, l'aviation. Et donc... il n'y a que peut-être que la marine qui n'est pas évoquée dans ses reportages photographiques. Mais il faisait de vrais reportages.
Ouais. Il a pu aller dans les avions.
Alors non, il photographie les avions au sol, évidemment.
Ah, d'accord.
Non, malheureusement, même si effectivement il existe des photographies prises d'avions, hein, parce que là on est en train de travailler sur ce thème-là en ce moment, lui non, il prenait les avions au sol. Malheureusement, on n'a pas les avions, ça aurait été trop beau ça.
D'accord. Vous disiez qu'il était d'Entrevaux. Actuellement, il y a une exposition à Entrevaux qui se déroule actuellement.
Non. Alors, pour le moment, l'exposition SIC, en fait, on l'avait déjà faite aux archives départementales. Et chaque année, donc, comme en ce moment, hein, on a une exposition donc, sur la période 1915-1916. On va dire qu'un tiers des photographies qui sont présentées viennent de ce fonds, parce que c'est, je vous le dis, hein, c'est une source inépuisable. Et l'année prochaine, je prépare donc l'exposition de l'année prochaine, de septembre, en fait, donc l'année 16-17. On a là aussi un fonds photographique qui va être très sollicité pour cette exposition.
Et pour ramener toutes ces archives, il y en a qui sont déjà sur place, vous avez d'autres ramifications par rapport à d'autres archives, comme pour les vêtements qui ont été rapportés pour les expositions de...
Oui, alors, vous avez raison. Pour le moment, j'ai surtout évoqué les archives dites publiques, et il y a l'autre catégorie d'archives qui sont les archives privées. En l'occurrence, par exemple, les photographies de Désiré Six sont des archives privées. Il y a aussi, donc, pour nous, la nécessité, effectivement, de collecter ces archives, quelles qu'elles soient. Alors, ce sont des archives d'entreprises, des archives d'associations, de particuliers, car comme vous le savez, la guerre de 14-18 avait entraîné la mise en place de ce qu'on appelait la grande collecte. L'idée étant que les personnes qui détenaient des archives, des lettres essentiellement, mais des photographies de grands-parents, d'arrière-grands-parents, de grands-oncles, combattants, viennent les amener aux archives départementales, on les numérisait et repartaient avec leurs photographies. Là, je suis en train de travailler donc toujours avec ce fonds. C'est quand même aujourd'hui presque 9000 numérisations qui ont été faites. Donc vous imaginez, c'est à peu près 70 personnes qui sont venues. Donc vous imaginez aussi là, la ressource documentaire qui existe et qui est évidemment très importante. On a par exemple une très belle correspondance d'instituteurs basalpins, enfin d'instituteurs et d'institutrices basalpins, qui est intéressante parce qu'elle concerne des instituteurs mobilisés et des institutrices qui sont des sœurs, des amis, qui restent au pays. Et on a des échanges de courriers à la fois entre le front et l'arrière, mais aussi entre les personnes de l'arrière qui s'écrivent pour raconter leur expérience d'enseignante pendant la guerre. Et donc c'est tout à fait intéressant, d'autant plus que ce sont toutes de jeunes institutrices et qui commencent donc dans des postes un peu difficiles, dans des endroits très reculés. Et donc on aurait même un sujet à faire sur la condition des institutrices dans les basaltes pendant la guerre, parce qu'elles sont à la fois déchirées par le fait que leurs frères sont au front et quelquefois ils laissent leur vie. Et puis leurs propres problèmes d'institutrice, en fait, hein, tout simplement d'enseignante dans un département où quand même l'effort de guerre implique beaucoup de sacrifices.
C'est vrai, c'était il y a 100 ans, on imagine que c'est proche, mais c'est loin.
En fait, c'est un autre monde. C'est une difficulté d'ailleurs, c'est le problème de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on porte des jugements qui sont avec nos propres systèmes de valeurs, évidemment, et parce qu'on pense, et à juste raison aussi, qu'il y a une continuité entre la société d'avant 1914, la guerre, et la société après, alors qu'en réalité... On est dans des systèmes de valeurs très différents, les conditions économiques sont très différentes, les conditions sociales, culturelles, enfin, on n'imagine pas, et on le voit bien, moi je lis beaucoup de correspondances de Poilu, on voit tout l'écart qu'il y a entre cette correspondance d'instituteur qui est très... alors déjà, il n'y a pas de faute d'orthographe, évidemment, hein, mais ce sont des gens très précis, vous voyez, qui ont une très belle écriture, qui vont au fond des choses, hein, parce qu'ils sont capables de mettre des mots sur leurs émotions, vous voyez, et nos soldats qui, quand même, ont été à l'école communale, mais qui ont quand même beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent. Et quelquefois même, on a quelquefois des orthographes un peu difficiles. Et puis surtout, une écriture qui est très stéréotypée, en fait, en gros. Vous savez que la guerre de 14-18, en général, quand les gens écrivaient du front, c'était pour dire « je suis vivant », en fait. Hein. Et les familles, en fait, attendaient une lettre pour dire « il est encore vivant ».
Et la guerre 14-18 aussi a fait péricliter plus ou moins l'aristocratie quelque part ou pas ?
Alors, c'est vrai que les historiens ont tendance à penser que le 19e siècle s'arrête avec 14-18. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, cette société, quand même, s'éteint. Hein, donc, et qu'au point de vue effectivement social, il y a des transformations qui sont radicales. C'est vrai, la société d'après la Première Guerre mondiale, donc de l'entre-deux-guerres, est totalement différente de celle d'avant... d'avant 1914. On peut dire que de ce point de vue-là, effectivement, 14-18 a transformé radicalement la société et a transformé aussi l'Europe, avec aussi toutes les conséquences qu'il y aura après, avec évidemment l'entre-deux-guerres, qui est une période très difficile, très, très complexe, et puis évidemment la Deuxième Guerre mondiale, qui était en germe, on va dire, au sortir de la Première Guerre, enfin, voilà, puisque les problèmes n'étaient pas résolus et qu'on voyait bien, enfin, on imaginait que... Que les solutions qui avaient été trouvées ne pouvaient pas être pérennes. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies transformations et, de ce point de vue-là.
Et est-ce qu'au niveau des différentes des écrits que vous avez pu voir, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était sous-jacent par rapport à cette guerre de 14-18, car il est arrivé.
Alors en fait, on a très peu de sources, justement, c'est très compliqué. Hein. On est quand même loin des questions diplomatiques, hein. on est dans un département. Il faut quand même repenser que les Basses-Alpes, c'est l'un des départements les plus petits de France, hein, en question, pas évidemment en superficie, mais en nombre d'habitants. Hein. On est Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Lozère. Hein. Je regardais récemment une liste qui a été faite, alors je ne sais pas quand, qui s'intéresse, qui calcule le nombre le nombre d'hommes par classe d'âge, d'après le recensement de 1911. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on cherche à définir le potentiel humain, évidemment celui qui pourra être mobilisé, ou qui est mobilisé, qui est mobilisable pendant la guerre, et on est vraiment dans les trois petits départements. Donc du coup, on est quand même très loin de ces questions diplomatiques, et on ne voit pas dans les archives, franchement, justement, de ces prémices, on pourrait dire, autant sur la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait effectivement trouver des correspondances où des gens s'inquiètent de la situation, etc. Autant sur la Première Guerre mondiale, on a très peu de choses. On n'a rien du côté de l'administration et on n'a pas grand-chose. Alors, un petit peu la presse, évidemment. La presse se fait l'écho quand même de tous les problèmes. Il ne faut pas oublier qu'en fait, avant la Première Guerre mondiale, il y a eu quand même deux guerres hein, dans les Balkans, ce qu'on oublie depuis 1912. Donc, évidemment, la presse se fait l'écho de tout ça. Mais hormis la presse, on trouve très peu d'éléments privés, j'allais dire, qui évoquent ces questions-là.
Et traces du moral des Basalpins en août 14, vous avez ?
Alors ça, par contre, on a effectivement quelques indices. Mais le problème, vous savez, c'est le problème des archives, en fait. Les archives, ce n'est pas tout. Les archives sont produites par quelqu'un. Alors quand elles sont produites par l'administration, quand c'est quelqu'un qui est haut placé en administration qui fait un rapport pour expliquer qu'il y a l'enthousiasme au moment de la mobilisation, est-ce qu'on est obligé de le croire ? Vous voyez, évidemment, lui, il voit la chose de son point de vue. Il a plutôt tendance, vous voyez, à magnifier le courage, etc. On le sait d'ailleurs hein, que de manière générale, les soldats ne sont pas partis à la fleur au fusil en 14. Ils sont partis avec la conscience quand même d'aller faire leur devoir. Hein, mais il n'y avait pas de débordement de joie, hormis quelques cas, hein, évidemment. Alors, c'est ce qu'on montre toujours, mais en réalité... voilà. Alors, effectivement, on a quand même quelques éléments. La presse en parle, mais aussi les courriers de l'administration. Et puis, les combattants. Je parlais tout à l'heure des instituteurs. Je pourrais vous parler, donc, c'était la famille Grégoire, hein, de cet instituteur qui est, en ce moment-là, donc instituteur dans l'Ubaye, hein, et qui est mobilisé, en fait, au 150e régiment d'infanterie alpine, et qui dit qu'il va faire son devoir. Il écrit un courrier. Il vient juste d'être mobilisé. On est en août 14. Et effectivement, pour lui, il est évidemment... tout à fait légitime et normal d'aller faire son devoir et donc d'aller combattre.
Dans le pactage d'un soldat en septembre 14, il y avait quoi exactement ?
Alors il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on en présente aux archives départementales, on présente un pactage d'après justement une photographie faite par Désiré Sic, qui est le pactage d'un sapeur, hein, donc d'un soldat du génie. Et on a en fait... un morceau de toile de tente, des piquets de toile de tente, on a de quoi manger, évidemment, des gamelles. Alors on a des gamelles individuelles et des gamelles collectives, car pour réchauffer, on utilise des grosses gamelles, voilà. On a des couverts, on a des vêtements de rechange. Voilà, donc il y a toute une riche chose. Et puis après, il y a évidemment, pendant la guerre, pendant les combats, évidemment, il y a de l'alimentation, car il faut que le soldat puisse manger quand même. Et donc il y a des rations, en fait, hein, le fameux singe, hein, bien connu, et puis du pain, un peu de vin, de l'eau de vie. On sait que la consommation d'alcool et de vin était très importante, surtout avant les assauts, évidemment. Hein, c'est une période très, très difficile pour les soldats qui devaient monter à l'assaut. Voilà, donc il y a effectivement tous ces éléments-là. En gros, le soldat, il est très lourdement armé, hormis, en plus de son arme, de ses munitions. Il a des outils éventuellement. Il a effectivement quelque chose de très lourd dans le dos, hein, qui lui permet d'être un peu autonome.
Vous dites très lourd dans le dos, mais ça représente quoi ?
Oh, c'est, je crois, une quinzaine de kilos à peu près. Donc c'est quand même assez lourd, sans compter tout ce qu'il porte sur lui, son arme qui est lourde, ses munitions, des grenades, enfin voilà. Donc il a, voilà. Alors après, évidemment, quand il combat, tout ça est posé, hein, évidemment, il ne part pas. C'est surtout les déplacements. D'ailleurs, les soldats, souvent, quand ils racontent la guerre, hein, et quand ils racontent à l'arrière ce qu'ils font, ils se plaignent beaucoup des marches. Des fois, les marches sont très longues, ils sont très lourdement chargés et c'est interminable, quoi.
La guerre des tranchées n'existait pas au tout début de la guerre. Quel moment s'est intervenu ?
Alors très très vite en fait, hein, dès le début de la guerre. Donc effectivement, on est dans ce qu'on appelle une guerre de mouvement. Et puis très vite, dès octobre, on commence à s'enterrer. Et effectivement, on commence ce qu'on appelle la guerre de position, qui est une guerre qui va durer toute la guerre, en réalité, toute la durée de la guerre, avec toujours la volonté de revenir à la guerre de mouvement, car on pense dans l'état-major qu'il n'y a que la guerre de mouvement qui peut faire la décision. Hein, la guerre de position, c'est une guerre d'usure. Hein. Il y avait un mot d'un général qui disait que c'était un grignotage. On grignote, mais on ne peut jamais gagner. Donc il fallait, sans arrêt, essayer de rompre ces fronts. Et ce qui explique d'ailleurs ces grands massacres. Car si on prend, par exemple, l'année 1916, donc la bataille de la Somme, c'est presque 1 million de personnes par terre. Parce qu'on veut absolument rompre le front. C'est le cas, par exemple, aussi de l'offensive Nivelle en 1917, en avril 17, où là aussi, on veut rompre le front. Ça ne marche pas. Et donc, c'est une véritable tuerie, en fait, pour des résultats tout à fait insignifiants.
Et pour remobiliser les soldats, de leur donner un meilleur espoir, est-ce qu'il y avait des permissions qui étaient accordées ?
Alors, c'est un système, effectivement, qui a été mis en place. Alors, vous voyez comme quoi les états-majors n'imaginent jamais ce que va être la prochaine guerre. En fait, comme vous le savez, on pense que la guerre va être courte des deux côtés. Hein. On pense que la décision va être très très rapide, un peu comme la guerre de 70, en fait, l'édition 70. Alors qu'en réalité, elle va durer très longtemps. Et quand on se rend compte qu'elle va durer longtemps, évidemment, on n'avait pas prévu qu'elle dure longtemps. Et donc, il faut effectivement très rapidement mettre en place, par exemple, un système de permission. Et donc, c'est à partir de 15, effectivement, que les soldats commencent à partir en permission. Il y a une statistique qui est intéressante dont j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps, qui concerne en fait l'occupation d'un soldat. Alors, c'est un soldat de l'infanterie qui était originaire des Bouches-du-Rhône, qui avait un cahier, en fait, dans lequel il notait tout ce qu'il faisait. Et grâce à ce cahier, alors ce n'est qu'un exemple, hein, grâce à ce cahier, on a pu calculer, un historien a pu calculer le temps passé à chaque moment de la journée, entre le front et l'arrière, dans les transports, dans les tranchées de première ligne. Et en fait, après calcul, il s'est aperçu que pour un soldat d'infanterie, il n'y avait seulement que 15% de son temps qu'il passait en fait dans la zone dite dangereuse, en fait, hein, soit en première ligne, soit en deuxième ligne, c'est-à-dire en fait, soit vraiment face à l'ennemi, soit vraiment en réserve. Et le reste du temps, il était soit en repos, soit dans des déplacements, soit dans de l'instruction, soit en relève. Voilà. Donc, pour vous dire que il faut penser que la guerre, ce n'est pas des gens en permanence dans les tranchées. Ce sont des gens qui sont finalement assez peu de temps en première ligne. Et il dit même que la plupart des soldats de l'infanterie n'ont fait qu'un assaut dans toute leur guerre, car en général, vu les conditions de mortalité, ils n'en auraient pas fait trois parce qu'ils auraient été tués. Donc ceux qui survivent, en fait, ce sont ceux qui n'en ont fait qu'un, et même quelquefois aucun. Hein. Prenons le cas de Giono. Giono n'a fait aucun assaut, il n'a jamais monté à l'assaut, même s'il a fait Verdun, il n'est jamais monté à l'assaut. Or, c'était là que la mortalité est la plus forte. Voilà. Donc il faut penser que les gens, en fait, qui n'avaient que 15% de leur temps dans la zone dangereuse et donc préoccupés par des questions de survie, le reste du temps, il faisait quelque chose. Et donc, et ce qui explique, entre autres, qu'ils écrivaient beaucoup. Voilà. Mais ils faisaient aussi, ils avaient droit, vous savez, aux spectacles, aux armées. Alors, évidemment, pour les bas alpins, eux passaient un peu plus de temps que les autres dans les transports, parce que quand ils partent en permission, évidemment, les transports étaient un peu plus compliqués qu'aujourd'hui. Et donc, il fallait qu'ils aient aussi le temps de pouvoir descendre. Voilà. Donc, on a là un peu, comment dire, une nouvelle dimension un petit peu qui est ouverte, parce qu'on parle de la guerre et du front, mais on oublie en fait tout le reste.
Et est-ce que vous avez des traces de lettres de soldats qui sont au front avant qu'ils descendent en permission, dans leur désir de revoir leur famille, leurs enfants, leurs femmes?
Oui, alors là, je suis en train justement de traiter de ce sujet, c'est le fameux cafard. Hein, c'est-à-dire que, voilà, donc ça, c'est une maladie qu'on décrit à l'époque comme une sorte d'instabilité psychologique, hein, donc le cafard, qui est lié en fait à plusieurs phénomènes. Le plus simple, c'est évidemment la peur de la mort, C'est-à-dire qu'on a le cafard juste avant de monter, avant une attaque, un assaut dont on sait d'expérience qu'on a des chances de pas s'en sortir. Et puis il y a le cafard, effectivement, il y a une sorte de nostalgie de l'arrière. Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est à la fois la nostalgie de l'arrière et puis c'est aussi l'idée de la tranquillité de l'arrière. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le soldat, il est toujours à la merci d'un coup de canon, hein, d'un obus qui tombe comme ça, un peu par hasard, sur la tranchée qu'il occupe, ou le trou, ou même un petit peu à l'arrière. Hein, les canons portent très très loin. Et puis il y a aussi cette idée, donc effectivement, que à l'arrière c'est merveilleux, c'est un endroit de bonheur, de calme. Et on voit bien, hein, dans les correspondances et même dans les journaux, hein, que certains poilus tenaient, on voit effectivement cette idée de désir de vraiment de retourner à l'arrière, d'être au calme, d'être tranquille. Et on le voit poindre beaucoup en 16. À partir de 1916 et 1917, évidemment. C'est d'ailleurs, ce cafard n'est pas sans doute étranger, hein, au phénomène de révolte des soldats qui refusent de monter dès Verdun. Hein, dès Verdun, déjà, on a des cas de soldats qui... Il y a un exemple d'un régiment où les soldats qui sont descendus de Verdun, hein, de la zone de combat, le matin, doivent remonter le soir, et il y a quasiment la moitié du régiment qui se cache pour ne pas remonter. Hein, donc voilà, donc on voit poindre effectivement ces phénomènes-là, et on a effectivement, c'est fondamental, hein, dans les correspondances, on le voit bien, et on parle beaucoup de cette maudite guerre, hein, de plus en plus, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Et là, on parle de 1916, il y a la bataille de Verdun, mais est-ce, oui, qu'il y a d'autres batailles cette année-là, alors, aussi importantes?
Alors la plus importante, finalement, c'est la Somme. Alors Verdun, évidemment, est très important parce que on va dire que c'est, comment dire, c'est important dans la mémoire collective française, en fait, parce que la stratégie de l'état-major a été de faire tourner les unités. Autrement dit, quasiment deux tiers des soldats sont passés à Verdun. Donc évidemment, ça a été un souvenir pour tout le monde. Hein, autant d'autres, par exemple, toutes les unités n'ont pas combattu dans les Vosges. En revanche, à Verdun, quasiment tout le monde est passé. Donc Verdun est resté comme un symbole, en fait, hein, de la résistance, puisqu'on sait aussi que si Verdun saute, ça ouvre la porte. On est pas loin de Paris, hein, et il faut voir toujours ça. La Somme est bien plus importante en termes de désastre humain. Hein, je vous le disais, c'est 1 million de personnes, surtout, en plus les Anglais, hein, vous savez, les Anglais, pour un historien écrivait que pour les Français, la mémoire, le terrain qui appartient à la France, c'est Verdun, c'est aussi d'autres lieux, hein, il n'y a pas que Verdun, mais surtout Verdun, alors que pour les Anglais, c'est la Somme. Et d'ailleurs, en 2016, les Anglais vont faire beaucoup de commémorations liées à parce que ce sont eux surtout qui ont payé le prix de la grande offensive, la Somme, qui commence en juillet, donc, hein, en juillet 1916, et qui est un véritable désastre humain. Je ne sais pas si vous avez lu des informations sur ce sujet, mais dans les premiers jours, les régiments se font hacher, vraiment, littéralement hacher, et ils continuent de monter, les bataillons se font détruire les uns après les autres, et vous avez des bataillons qui sont totalement anéantis au bout de 2 jours ou 3 jours de combat. Donc c'est vraiment... cette bataille qui est l'une des plus importantes de la guerre.
État-major à l'arrière.
Oui, alors évidemment, oui, mais on pense toujours, hein, je le dis, hein, il faut toujours se remettre dans le contexte. On pense que c'est une façon de fuir la guerre, hein, d'une certaine manière, parce qu'on veut rompre le front. Or, en face, ils sont très bien préparés aussi, hein, tout le monde s'est bien enterré, surtout les Allemands. Beaucoup plus que les Français. Hein, c'est très curieux parce qu'il faut penser qu'on combat sur le territoire français et que pour les Français, il n'est pas question de s'accrocher au territoire qu'on détient déjà, puisque celui qui est en face, il a le territoire français. Donc on a toujours l'idée qu'on va pouvoir monter. Ce qui fait que, par exemple, les soldats étaient très frappés par les qualités d'installation des tranchées allemandes par rapport aux leurs. Les Allemands utilisent du béton, s'enterrent beaucoup plus, protègent beaucoup mieux leurs soldats, amènent du confort électrique, etc. Enfin, vous avez de la lumière, de la ventilation, etc. Ce que n'avaient pas tous les Français, car en France, on considérait que c'était provisoire. Et donc, quand on fait du provisoire, évidemment, on ne fait pas des choses très élaborées. Voilà. Donc, c'est toujours cette idée de rompre le front, hein, d'aller de l'avant, de faire un trou, de passer de ce trou et de pouvoir déborder tout le monde. Malheureusement, ça n'arrivera jamais.
Vous parliez des Anglais, de la bataille de la Somme. C'est de là que vient le trench coat.
Oui, alors oui, bien sûr. Oui, alors il y a tout ça, effectivement. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que on parle des Anglais. Hein, on a des photographies d'anglais. Alors, les Anglais sont là depuis le début. Hein, il faut toujours rappeler les choses. Mais au début, l'armée anglaise est très petite puisque c'est une armée de métier. La conscription, en fait, est ouverte pendant la guerre. Et on a ces soldats, justement, ces masses de soldats qui arrivent et qui vont occuper le terrain, qui sont d'ailleurs une source à la fois pour les cartes postales humoristiques, mais aussi des photographies. On a des récits qui a fait quelques photos d'anglais avec leur célèbre casque, hein, qui fait qu'on les reconnaît très, très bien. Et puis, quelquefois, on a même des cartes postales avec quelques mots d'anglais. Voilà.
Et la diffusion de ces informations, dans les Alpes d'Haute-Provence, hein, dans les basses Alpes d'alors, c'était très peu diffusé, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient. Mais est-ce que dans d'autres régions, vous étiez en Lozère, dans ce centre de la France un petit peu, c'était du même tonneau, même
en fait, c'est pareil. Oui, en fait, il y a des informations qui circulent. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a la censure depuis le début de la guerre qui empêche que certaines informations. Alors, la censure a deux fonctions. Un, c'est empêcher un peu ce qu'on avait reproché à la presse en 70 d'avoir renseigné l'armée prussienne sur les mouvements de l'armée française. Donc ça, on ne veut pas le reproduire. Donc c'est la question de la sécurité. Puis il y a aussi la question du moral. Hein. On voit bien qu'il faut que le moral, que les soldats de l'avant conservent le moral, mais aussi l'arrière, et surtout quand on voit que la guerre va durer, hein, on est dans une stratégie de tenir. Donc la censure, c'est aussi empêcher les mauvaises nouvelles. Hein, et donc du coup, on fabrique des bonnes nouvelles hein, en permanence. Donc, donc la presse développe ces bonnes nouvelles, hein, puisqu'elle n'a pas le choix. Mais il y a évidemment les correspondances. Il y a aussi les permissionnaires. Et les correspondances, même s'il y a une censure, hein, un contrôle postal, hein, on ouvre les lettres, certaines lettres, mais pas toutes, beaucoup passent à travers. Au début, ces lettres ne racontent pas la guerre, parce que vous savez qu'il y a une certaine pudeur hein, à ne pas dire... parce que les soldats, quand même, eux-mêmes ont été frappés par la monstruosité de cette guerre, hein, les corps hachés... je ne vais pas revenir sur la conception de la guerre qu'on avait dans l'état-major, mais on pensait que ça a été une guerre propre, entre guillemets, c'est-à-dire en fait des blessures très propres, par balles. Le soldat était blessé, soit il était mort, soit il était blessé. S'il était blessé, il pouvait lui mettre un pansement et puis il allait tranquillement en marchant vers le poste de secours. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On avait une guerre sale, entre guillemets, c'est-à-dire en fait une guerre où les gens sont victimes essentiellement de bombardements, d'obus. Donc, c'est des corps qui sont déchiquetés et sales, parce qu'il y a de la terre. Et donc, ce qui développait d'ailleurs des gangrènes gazeuses, et ce qui a d'ailleurs induit une très forte mortalité au début de la guerre. Donc, ces soldats, au début, ont certaines répugnances à parler de la guerre, hein, par pudeur ou pour d'autres raisons. Et puis, on voit hein, tout doucement, on voit le ressentiment arriver, on voit aussi la description de la guerre, des corps, tout ça se passe. Donc, les familles, en réalité... savent ce qui se passe sur le front, malgré la censure et malgré le contrôle postal.
Et malgré la presse, ils étaient crus quand même ?
Alors oui, parce que et puis les permissionnaires, hein, donc les gens racontaient, rentrant en permission, racontaient leur expérience. Puis vous savez, il faut aussi penser que la plus forte mortalité, c'est en 14 et en 15. Les familles ne sont pas dupes, hein, elles voient venir le maire ou les gendarmes pour informer les familles de la perte d'un mari, d'un fils, d'un frère, etc. Et donc, il faut voir hein, l'importance de la mortalité en dès août 14. Hein, on a une journée quasiment 32 000 morts dans la même journée, hein, le 22 août 1914, 32 000 morts français, ce qui est quand même absolument incroyable. Enfin, vous voyez. Donc, évidemment, la censure a beau œuvrer, les gens ne sont pas dupes.
Et est-ce qu'au niveau des archives départementales dans les basses Alpes, ils montraient aussi les armements qui changeaient, puisque ça a radicalement changé. Alors, et l'aviation, la surveillance aérienne.
Oui, alors c'est les cartes postales, hein, beaucoup. Hein, dans les correspondances militaires, il y a des petites cartes militaires hein, qui ne sont pas illustrées. Il y a les lettres, évidemment, les lettres classiques. Mais on échange beaucoup de cartes postales. Hein, vous savez que c'est la période où on a le plus utilisé la carte postale. C'est l'âge d'or de la guerre de 14-18, c'est l'âge d'or de la carte postale. Hein, c'est des centaines de millions de cartes postales qui ont été échangées. Et donc, ces cartes postales montrent à la fois les destructions. Hein, donc, vous avez beaucoup de cartes postales de ce qu'on appelle au début la guerre de 1914-1915, hein, puisqu'on a les deux premières années. Donc, on a les destructions qu'on voit, donc les villages totalement détruits, hein, qui sont envoyés comme des photos, quoi, en fait, hein, comme des images. Et puis, ces cartes postales qui vont... qui vont donc être utilisées toute la durée de la guerre montrent en fait la guerre elle aussi, et aussi les avions, les canons, etc. Et puis par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, les soldats faisaient des photographies. Hein, on a aux archives départementales maintenant, je pense, une douzaine de fonds photographiques d'origine différente, mais tous produits par des soldats qui montrent en fait la guerre, hein, donc le résultat d'un tir, un canon détruit, des corps des soldats morts. Hein, j'ai des images absolument effroyables. Vous avez les gens, là j'ai une image par exemple où les soldats mangent sur les cercueils en bois, vous savez, donc qui sont mis en attente de l'offensive. Hein, vous savez, quand il y avait une offensive, on préparait, hein, et on préparait donc des cercueils évidemment, et donc ils sont là sur des vieux territoriaux, vous savez, donc eux ils ne montent pas au front et ne montent pas à l'assaut, et ils sont prêts, vous voyez. Et puis je ne parle même pas des images de corps déchiquetés, hein, vous avez les gens à côté et qui vivent à côté de corps complètement déchiquetés. Voilà, donc il y a des images absolument effroyables qui sont évidemment diffusées.
Et avez-vous des témoignages de, comment dire, d'espionnage? Parce que c'est
alors,
assez important.
Je n'ai qu'une photographie, c'est une photographie qui concerne l'armée d'Orient. Donc c'est je crois que c'est le 15-7, donc hein, le 150e régiment d'infanterie alpine, qui donc fait partie de l'armée d'Orient, et c'est un espion fusillé, donc qui n'est pas évidemment français, qui a été fusillé par des soldats du 15-7. C'est la seule image que j'ai, mais on sait, hein, évidemment qu'il y avait de l'espionnage, en particulier les aviateurs. Parmi les missions qu'ils avaient, mais ça j'en parlerai une autre fois, hein, ce sujet-là, mais parmi les missions qu'ils avaient, ils avaient à déposer derrière les lignes allemandes des espions, qui étaient en fait souvent des douaniers, parce que les douaniers connaissaient très très bien les lieux, puisque je rappelle qu'on est en France, hein, toujours, et donc ces douaniers étaient amenés par avion, déposés, donc l'avion atterrissait dans un champ, parce qu'à l'époque il n'avait pas besoin de grande longueur pour se poser et pour repartir. Il déposait au petit matin le soldat, en fait, hein, qui était donc un douanier, pour faire des missions d'espionnage. Voilà.
Et il le récupérait quand?
Ah ben, il se débrouillait tout seul pour rentrer. Il n'allait pas le chercher. L'avion, après, repartait très, très vite, évidemment, parce que ça fait du bruit, même si c'est très difficile dans la nuit de localiser un bruit, hein, d'où il vient, hein, puisque le but était d'aller très, très vite. Donc, il déposait et repartait. Et par exemple, Georges Guillemer, qui est quand même le héros absolu de la Première Guerre mondiale, a eu des missions de ce type-là.
Et les douaniers allaient là derrière, mais le commun des mortels qui allait au front... Bon, il y a l'infanterie, oui. Il y avait des personnes qui étaient un petit peu plus instruites, qui n'allaient pas forcément plus au front que d'autres.
Oui.
Mais est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient, entre guillemets, plus instruites, qui voulaient faire montre de courage plus que d'autres?
Bien sûr, il y a eu des cas comme ça de personnes, effectivement, même quelquefois âgées, hein, qui se sont engagées alors qu'ils étaient dégagés des obligations militaires, hein, qui n'avaient pas l'obligation d'aller faire la guerre, ou qui ont demandé, en étant effectivement dans l'armée, en fait, hein, donc mobilisés, mais qui étaient âgés, à aller au front. Effectivement, on a quelques cas comme ça, mais d'une manière générale, les gens qui combattent en première ligne sont des gens plutôt jeunes. En fait, hein. Ce sont surtout les classes, ce qu'on appelle les classes 1913, 1914, 1915, 1916. Donc en fait, les jeunes gens qui étaient nés qui avaient 20 ans en fait en 1913, 1914, puisque ils ont des qualités athlétiques évidemment, ils sont jeunes, ils courent vite, ils ont la capacité de se protéger, ils sont instruits car les classes 1912, 1913 étaient déjà en train d'effectuer leur service militaire, parce que le service militaire était passé à 3 ans au moment de la mobilisation. Donc, c'était plutôt ces gens-là qui ont été les victimes de la guerre. Les gens plus âgés qui étaient instruits, en général, on les utilisait dans les armes techniques. Hein, c'est-à-dire qu'on essayait quand même d'utiliser les compétences des gens. L'une des raisons pour lesquelles les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, la Lozère, qui est le record, hein, ont eu beaucoup de victimes. Hein, la Lozère, c'est 11% de sa population masculine quand même qui a été tuée pendant la guerre. La raison principale, c'est que c'était effectivement des soldats qui n'étaient pas qualifiés, hein, qui n'avaient pas de qualification civile, et donc ils se retrouvaient dans l'infanterie, là où ils risquaient vraiment leur vie.
Et est-ce qu'avant cette guerre, il y avait des monuments aux morts?
Alors, il y a eu les monuments aux morts, ça commence avec 1870. Hein, on commence à avoir des monuments aux morts, parce que, en fait, dans la philosophie militaire, c'était les officiers qui étaient d'abord... les officiers n'étaient jamais enterrés avec les autres. Et quant aux soldats, ils étaient enterrés dans les fosses communes. Et c'est à partir de 1870 qu'on commence à voir apparaître, effectivement, ces monuments aux morts. On témoigne une reconnaissance à des soldats les plus humbles, les plus ordinaires. Ce phénomène, évidemment, de 1870 est sans commune mesure avec celui, effectivement, qu'on va connaître à partir des années 20, puisque dès les débuts de la guerre, les soldats entreprennent, alors que les règlements militaires ne prévoient pas, d'enterrer les morts individuellement, alors que le règlement prévoyait des fosses communes, et surtout en y indiquant des indications biographiques, c'est-à-dire en disant qui est là. Ce fameux instituteur-là que j'évoquais a été tué donc en 1915, et toute la question de la famille dès sa mort, je crois que c'est en avril 1915 de mémoire, c'est justement de savoir où il est enterré, et après la guerre, de récupérer le corps pour le rapatrier. Et donc on voit bien, en fait, toute la démarche qui est entreprise, justement, d'identifier le corps, de photographier même la tombe, vous voyez, pour attester qu'elle existe, avec la croix, avec le nom dessus, vous voyez, Grégoire, pour pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est une vraie démarche. Et ça, cette date, c'est une initiative, en fait, des poilus, alors que le règlement militaire ne le prévoyait pas. Donc il y a vraiment, oui, la guerre de 14-18 est une guerre comme très particulière, où dès août 44, on a des monuments. Moi, j'ai une photographie, je crois, qui date du 22-23 août 1914, pardon, excusez-moi, 1914, je me trompais de guerre, 1914, où on a effectivement un petit monument qui est une croix avec tous les noms des gens qui ont été tués et qui sont enterrés à cet endroit-là.
Les soldats étaient très solidaires entre eux.
Exactement, il y a quelque chose qui tient. Et alors, on enterrait évidemment les soldats de sa troupe, de son armée, mais on enterrait aussi l'ennemi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on considère qu'il est... J'ai un texte très beau là-dessus qui dit, en fait, en gros, le Boche est vraiment un ennemi, etc. Mais quand il est mort, il redevient un homme. Vous voyez, donc, la règle qu'on appliquait quand il était vivant, c'était en gros le détruire de par tous les moyens possibles, ne va pas au-delà de la mort. Et quand il est mort, quand il a un cadavre, et bien à ce moment-là, on lui doit une sépulture et donc on l'enterre comme les autres.
Et le mot Boche, vous savez d'où ça vient ?
Oui, alors c'était le mot, en fait, c'était en fait un mot qui était Al Boche, en fait, qui s'est transformé en Boche, vous savez, comme souvent on simplifie, qui était en fait, qui précède la guerre, en fait, qui n'est pas un mot, comme le mot poilu d'ailleurs, le mot poilu vient d'un mot qui ne veut pas dire j'ai du poil, même si les civils l'ont compris comme ça. Le poilu, c'était le soldat courageux, en fait, dans l'argot militaire. Donc quelqu'un qui était poilu, oui, c'est celui je ne vais pas développer la métaphore, mais oui, qui avait vraiment du courage, parce que c'était un homme, vous voyez, il avait du poil, donc c'était un homme, et un homme, ça a du courage, voilà. Donc d'où l'expression poilu.
Et à contrario, piou-piou ?
Alors les pupous, alors je ne sais plus. Oui, les pupous, c'était les gamins, en fait, les jeunes, c'était les bleus, en fait. Mais je ne sais pas l'origine des pupous, mais effectivement, c'était les soldats qui arrivaient, en fait, donc les tout jeunes, et qui venaient faire leur classe, et qui n'étaient donc pas du tout de vieux soldats aguerris ou des soldats, parce que la guerre, c'est une mobilisation des classes qui vont jusqu'à 45 ans. Et donc, il y a des soldats qui sont déjà âgés, qui ont fait leur service militaire, qui ont déjà une expérience de la guerre, et qui voient arriver ces pupous, ces bleus, en fait. Donc des gens qui n'ont pas de formation militaire.
Est-ce que sur le front, les femmes étaient là pour leur redonner le moral en faisant des spectacles ?
Il y a très peu de femmes, en fait. Il y a très peu de femmes pour des raisons assez évidentes. Les femmes sont, en général, vous savez, sur les théâtres d'opération, il n'y a plus personne, en fait. Les villages sont abandonnés. D'ailleurs, les soldats qui occupent les villages pour dormir juste derrière les premières lignes ou les deuxièmes lignes ou les troisièmes lignes, sont dans des villages totalement vides, il n'y a plus personne. Quelquefois, il reste une vieille personne qui n'a pas voulu quitter sa maison, mais tout est à moitié démoli. Donc il y a très peu de contact avec les civils, du moins dans la zone de guerre. Derrière, effectivement, c'est tout à fait différent. Et on a tous dans la tête, évidemment, la célèbre Madelon qui vient servir à boire. Donc il y a effectivement ces images-là. Il y a les infirmières aussi. Les soldats, finalement, fréquentent, parce que beaucoup sont blessés, se retrouvent dans des hôpitaux où il y a des infirmières qui sont des infirmières de la Croix-Rouge, hein, le plus souvent, souvent d'ailleurs des bénévoles, hein, des femmes qui sont engagées, hein, pour la durée de la guerre, et qui est d'ailleurs une figure totalement idéalisée, hein, de la femme l'ange, vous savez, l'ange à la fois l'ange de vertu, le sauveur, la mère, l'épouse, oui, enfin, elle remplit tous ces rôles-là, et on voit bien dans les représentations d'ailleurs des femmes, des infirmières, donc tous ces toute cette mythologie qui a duré assez longtemps encore, hein, et qui peut-être dure encore quelquefois, voilà, dans cette un peu, hein, dans un peu ce lieu commun, en fait, voilà, mais qui date peut-être de cette période.
Et hors front, à l'arrière du front, les femmes avaient quel rôle à cette époque-là ?
Alors les femmes remplacent les hommes, hein, donc on le voit très très, très clairement. Hein, autant l'administration le demande, hein, dit voilà, les hommes ne sont plus là. Qui reste-t-il ? Ben, il reste les personnes âgées. Les hommes qui ont été réformés, donc qui sont en général ne sont pas capables de remplir certaines missions, et puis donc les femmes et les enfants. Donc il faut effectivement que les femmes fassent tourner l'économie. Alors dans un département comme les Bas-Alpes, c'est évidemment l'agriculture qui est fondamentale, car il faut quand même penser que toutes les forces, enfin une grande partie des forces vives de la nation est orientée vers la guerre, donc soit combat, soit produit. C'est quand même une guerre, c'est ce que je ne sais plus quel général disait, c'est une guerre de machines, hein, une guerre industrielle déjà. Hein, donc il faut produire pour la guerre, et à côté de ça, il faut aussi nourrir tout le monde. Et donc il y a un vrai effort de guerre qui est demandé aux femmes qui font tourner les exploitations. Hein. Alors au début, c'est assez amusant, les hommes donnent des conseils, vous savez, écrivent pour dire à leur épouse, fais ci, fais ça, attention à ci, voilà. Mais tout ça disparaît très très vite, en fait, les femmes prennent en charge cette alors. La question, c'est est-ce que ça a émancipé les femmes ? Ça, c'est un débat aujourd'hui. On pensait que oui, aujourd'hui, on est beaucoup plus nuancé, car quand les hommes sont revenus de la guerre, des fois, ça ne s'est pas très bien passé. À la fois, d'ailleurs, sur le plan conjugal, on a quand même, pendant la guerre déjà, on a beaucoup de divorces, hein, et puis après la guerre aussi, et puis aussi, dans, tout simplement, l'homme qui reprend sa place, hein, entre guillemets, et qui ramène son épouse, qui peut être plutôt réticente aux fonctions d'avant la guerre. Or, la guerre est passée par là, et évidemment, les choses ont changé. Voilà. Donc, il y a aussi, sans doute, des choses qui tiennent à la fois à l'émancipation, mais aussi à un ordre ancien qui essaie de se remettre en place.
Et oui, quoi qu'il se passe, la vie continue.
Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Les femmes ont pris des habitudes sans les hommes, qu'elles voient très peu. Hein. Il faut aussi, les permissions sont quand même assez rares. Je ne parle même pas de ceux qui partent sur les fronts de l'armée d'Orient. Évidemment, tout ça est très compliqué pour eux. Donc, effectivement, il y a une société qui s'est développée. Le préfet, d'ailleurs, en parle, puisque les femmes aussi remplacées dans les fonctions administratives. Alors il a un petit rapport qui est assez amusant. Il dit en gros, on aurait pu penser que, enfin certains pensaient que les femmes n'auraient pas été capables de remplacer les hommes. Et puis en réalité, il dit, il écrit qu'en fait ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème et qu'elles sont tout à fait aptes. Oui, c'est amusant, hein, aujourd'hui de parler comme ça, aptes pour remplir les missions que les hommes remplissaient auparavant.
Jean-Christophe Labadie, merci. On pourrait encore parler des heures, mais l'heure qui nous est impartie se termine. On se retrouve le 14 avril.
Mais c'est avec beaucoup de plaisir.
Et juste pour donner les archives départementales, vous avez un site sur lequel
on peut trouver beaucoup d'informations sur notre site internet, hein, qui est donc www.archives04.fr, où vous avez à la fois nos expositions, nos publications, dont certaines sont téléchargeables. Hein. Je parle de la guerre depuis maintenant une demi-heure. Eh bien, on a produit deux petits journaux d'exposition qui sont téléchargeables et qu'on peut consulter tranquillement chez soi.
Merci.
Merci à vous.